BFM Bourse, on refait la séance.
Ils sont là, nos experts. Mathias Desmarais, responsable de l'activité action Dodo BHF. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Bienvenue. Alexis Albert aussi nous accompagne, gérant DNCA. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Guillaume.
Et bienvenue également. D'abord les marchés au global, comment vous les sentez là dans la phase actuelle, Alexis, avant les publications qui vont démarrer?
On sent qu'il y a, il y a une certaine nervosité, il y a une rotation qui est extrêmement violente d'une journée sur l'autre. On parlait de la défense, on parlait de la tech. On voit qu'on a quand même des mouvements vraiment, vraiment, vraiment violents de rotation d'une journée sur l'autre. Je pense que on est un petit peu partagé entre finalement une bourse qui a été tirée quasiment que par les semi-conducteurs depuis le début de l'année, principalement par ce secteur, avec des perspectives de croissance qui sont fortes, donc un petit peu de nervosité sur ce secteur. À l'inverse, on a tout un tas de secteurs qui étaient impactés par l'Iran, qui ont du mal à rebondir. Là, on voyait encore Saint-Gobain aujourd'hui, qui est encore dans la penalty box. On a parlé de Capgemini. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nervosité. Les résultats vont être très, très importants. Il y a des valorisations tendues sur certains secteurs. À l'inverse, il y a des valorisations extrêmement peu chères, mais qui n'attirent pas. Donc, on est vraiment... Vraiment une nervosité sur le marché, je trouve.
Oui, vous le trouvez nerveux, ce marché.
Ouais.
C'est difficile, effectivement, de parler de ce marché, de narrer le marché en ce moment en suivant un fil rouge, en parlant d'un grand mouvement profond. Au contraire, on est vraiment sur une phase où ces grands mouvements de rupture, de disruption technologique, etc., qui avaient porté à la hausse, permis de nouveaux records il y a quelques mois, bah, tout ça, c'est beaucoup plus chaotique aujourd'hui. Tout ça se fait beaucoup moins qu'avant, en ligne droite. Vous savez, aux États-Unis, sur les routes, quand c'est un peu chaotique, on dit dump and pump ou pump and dump. Vous savez, c'est un peu ça. Est-ce que c'est un peu ça désormais les marchés? Est-ce qu'on sort de ces grands boulevards haussiers, de ces grands boulevards faciles à lire, à décrire, pour entrer dans quelque chose de plus nerveux, de plus trouble, Mathias?
On est dans un environnement beaucoup plus troublé depuis le début de l'année, aussi avec les déclarations du président Trump, quand même, qui ont, d'un jour ou l'autre, on voit que finalement, il n'y a plus de cessez-le-feu,
oui,
ça repart.
Ça
après, voilà, il y a une thématique sur l'IA, et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, finalement, c'est trop cher. Regardez Samsung l'autre jour, qui fut des résultats exceptionnels et qui baisse. Et donc, effectivement, je pense qu'on a un peu perdu une certaine boussole sur le fond des histoires, et donc une nervosité avec les résultats qui arrivent, sur lesquels finalement on a assez peu de visibilité, d'une manière générale, avec les problématiques d'inflation, de contexte économique, géopolitique. Et donc ça ne va pas être facile pour les 15 prochains jours.
Oui, sur les publications, vous espérez quoi? De quel secteur particulièrement Où est-ce que, sur quelle poche du marché vous êtes le plus optimiste, ou vous seriez prêt à mettre un peu plus qu'ailleurs?
Je pense que les financières, d'une manière générale, vont publier des résultats de bonne qualité. On a eu quand même un volume d'émissions primaires qui a été extrêmement fort. On a des volumes traités qui sont bons. On a un petit retour du crédit. Donc, je pense que les financières, ça va bien se passer. À l'inverse, je dis pas que ça va mal se passer, mais je pense que l'attention va à nouveau être complètement concentré sur les capex des hyperscalers, les capex des semi-conducteurs. Est-ce que c'est soutenable? Ça va quand même rester un driver. Surtout qu'en plus, on le voit, les ramifications sont énormes. On se retrouve avec des Schneider, des Rexel, des Prysmian, des Nexans, tous ces sociétés-là, qui sont les acteurs de l'électrification, qui ne bougent quasiment que maintenant sur les semi-conducteurs, que sur les semi-capex. Donc voilà, je pense que les financières, je suis pas trop inquiet. Le reste, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision très 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 claire.
Oui, les financières, c'est là où vous avez le plus de certitude aussi, Mathias, ou...
Oui, la sphère financière dans son ensemble, oui, peut paraître un bon pari. Je pense que certaines sociétés aussi des télécoms, finalement, qui est un secteur qui est plutôt pas mal performé, qui devrait bien s'en sortir. Et après, je pense que ça va être très très compagnie spécifique dans des secteurs comme la consommation, même sur l'industrie. On a vu, il y a tellement de poches dans l'industrie, effectivement, Schneider, probablement bien, Saint-Gobain, à voir avec le contexte. Et après, il faut juste savoir où va être la déviation par rapport à ce qui est attendu, et aux craintes qu'on pouvait avoir aussi par rapport à l'impact de la guerre en Iran et du ralentissement économique. Et en fait, c'est surtout ce delta-là qui psychologiquement peut jouer, je pense.
Les valeurs qui se distinguent ce soir, Ipsen a gagné 1,7%, des résultats d'études positifs pour le traitement de la migraine. Manifestement, son traitement Dysport, c'est son nom, permettrait de réduire le nombre de jours de migraine pour les migraineux. Et donc, alors c'est un supermarché, enfin c'est un magnifique marché, immense, il y a beaucoup de migraineux qui seraient ravis effectivement qu'Ipsen réussisse sur ce... Oui, c'est pas un supermarché, c'était très maladroit.
J'ai réalisé à l'instant.
Oui. Voilà. Et voilà, ce serait bien pour tout le monde, effectivement, qu'ils avancent là-dessus, Ipsen. Plus 1,6 ce soir, ça veut dire qu'on achète le truc, mais on n'est pas non plus super enthousiaste. Pourquoi cette retenue du marché?
Alors sur Ipsen, je pense qu'effectivement c'était un des produits qui est attendu. Ils ont trois gros produits qui sont attendus. Donc il y avait celui-là sur la migraine et deux autres plutôt sur les maladies rares. Et effectivement, c'était un relais de croissance. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vu de manière positivement. Après, nous on est un peu plus prudent parce que le titre a quand même pas mal performé. On a eu on aura des résultats le 30 juillet qui vont être très solides pour le coup et de bonnes factures dans la suite du premier trimestre. Après, il faut faire attention qu'il y a deux produits un peu phares qui vont être beaucoup plus concurrencés notamment par des génériques en T3 et au T4, et c'est peut-être un peu la zone d'incertitude qu'on aurait. Donc à ce stade, moi je pense que c'est plutôt bien valorisé à très court terme, bon résultat, mais ensuite quelques inquiétudes sur le deuxième semestre.
Romain est avec nous. Ipsen, comment vous sentez ce titre graphiquement, Romain?
Bien, on avait indiqué une impulsion haussière et une réactivation de la dynamique au mois de janvier. La cible idéale, c'était 169. On a atteint ce niveau et c'est quasiment le cours auquel on clôture ce soir. Alors, si on arrive à déborder cette cible, eh bien effectivement, on peut aller chercher des extensions en direction de 189. Mais le momentum semble un peu en panne pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau-là. Le premier support important, c'est 148.
Airbus, faut qu'on dise un mot d'Airbus aussi, qui aura aussi reculé aujourd'hui, alors qu'Airbus, Alexis, nous annonce que d'ici 2045, dont à peine dans moins de 20 ans, la flotte mondiale d'avions aura doublé. Et Airbus a quand même reculé. Alors déjà, une flotte d'avions qui double, comment vous regardez? Et puis surtout Airbus au milieu de tout ça.
Alors pourquoi elle a reculé? Je pense qu'elle a été prise dans le sell-off qu'on a vu aujourd'hui des valeurs de la défense, même si c'est pas le gros de son business, ça joue quand même un petit peu.
Oui.
Finalement, si
il y a
on
Thales
voit
aussi qui perd 3%.
Voilà. Ouais. Donc si on voit que Thales perd 3, Airbus est en très légère baisse, je pense que c'est peut-être la proportion de son business de défense qui l'emporte en territoire négatif. Sur la flotte, je crois que on a maintenant depuis moi je pense au moins une dizaine d'années la certitude qu'effectivement il y a un potentiel sur ce segment de l'aviation civile qui est considérable. Mmh. Avec notamment les pays émergents, mais pas que, avec le renouvellement de la flotte actuelle, avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Amérique du Sud. Donc c'est évident que sur ce segment, on a un potentiel qui est considérable. Et ce qui est fantastique avec ce secteur, bon déjà, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés françaises. Ça, c'est quand même déjà une bonne nouvelle.
Oui, oui.
La deuxième chose, c'est que si on prend l'aviation civile, si on prend la motorisation civile, on est quasiment à chaque fois en duopole ou dans le pire des cas en triopole. Donc c'est quand même des business sains, c'est des business sur lesquels on a une visibilité extrêmement longue. Moi, j'ai personnellement une petite préférence pour les motoristes parce que j'aime le business de maintenance qui donne une récurrence des revenus.
Oui,
mais c'est un secteur fantastique, faut reconnaître, hein, l'aéronautique civile.
Mathias, Airbus, il recule, c'est vrai que le secteur de la défense est dans une moindre mesure.
Oui, et puis
on perd que 0,4 ce soir.
On perd que 0,4. Après, effectivement, les carnets de commandes chez Airbus sont pleins quand même pendant 10 ans.
Oui.
Donc voilà, on est bien. Je pense que peut-être aussi quelques inquiétudes liées à ce qui se passe sur CFM, Pratt & Whitney, qui devraient comme se résorber. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'ils vont dépasser finalement leurs objectifs de livraison d'avions? Et c'est vrai que à la fin du S1, quand ils l'ont annoncé, on pouvait se dire, bon, oui, ça semble quand même assez ambitieux, même si le groupe se veut rassurant sur l'accélération des cadences qu'on a vu au mois de juin. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'entre le développement du long courrier et finalement la résolution des problèmes, notamment sur les A320, bah, finalement, à partir de 2028, vous avez quand même une histoire qui est très dérisquée en termes de croissance de chiffre d'affaires, mais aussi de rentabilité, avec une très forte génération de cash, avec 20% de croissance des bénéfices par action par an. Donc, c'est vrai que ça fait partie des très belles valeurs à garder dans un portefeuille. Pour le coup, sans aucun problème.
Donc on la garde Airbus hein, de deux côtés, même si de votre côté, vous préférez quand même les
motoristes.
Les motoristes, ouais. Romain, Airbus, comment vous la sentez cette valeur graphiquement?
Toujours haussier, effectivement, oui. Depuis qu'on a débordé ce niveau de 196,80. On le teste ce soir en clôture, mais c'est l'épaisseur du trait. Tant qu'on est au-delà de ce niveau de support, la cible, c'est 238,40. Attention, sous 196,80, on invaliderait la structure de retournement qu'on a mise en place et qui s'est formée entre janvier et puis la fin du mois de juin.
Il y a aussi l'immobilier qu'on suit aujourd'hui avec cette publication de Kaufmann. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Kaufmann. Alors, ils annoncent quoi? Ils maintiennent des objectifs annuels avec un chiffre d'affaires au premier semestre 2026 de 500 millions d'euros, quasi stable. Ils maintiennent donc leur chiffre d'affaires. On va regarder ce qu'a fait cette valeur Kaufmann & Broad en clôture avec leur maintien des objectifs. C'est plus 0,8. Donc, on est du bon côté de la force sur Kaufmann & Broad. Est-ce qu'il faut continuer sur cette valeur? Qui se jette à l'eau là-dessus?
Allez, je vais y aller.
Allez. C'est l'immobilier, ça intéresse plein de gens.
Alors oui, bah, l'immobilier, ça fait longtemps qu'on en parle pas. Donc effectivement, sur l'année, on peut se dire que les objectifs sont pour une fois tenus, mais c'est stabilité du chiffre d'affaires, stabilité des marges. Non, ce que je retiens surtout de cette publication, c'est la légère hausse des réservations en volume. qui est pour le coup une très bonne performance par rapport au secteur. Et vous savez que le secteur reste compliqué. Après, nous, on est plutôt neutre pour deux raisons. Il y a une bonne résistance du groupe, notamment par rapport à son portefeuille produit. Donc ça, c'est très positif. Après, on est quand même un an d'une élection présidentielle. C'est de la promotion immobilière. Le secteur est pas forcément sorti de l'auberge, même si effectivement tout le débat autour du statut du bailleur privé pourrait être positif pour le secteur, mais je trouve que c'est un peu trop tôt, personnellement, pour revenir sur la promotion immobilière en France. Il y a un peu trop d'incertitudes, je trouve.
Oui, lesquelles ?
L'environnement économique,
oui,
voilà, les élections présidentielles, parce que pour le coup, je pense que tout le monde va vouloir s'emparer du sujet logement, mais entre s'en emparer depuis longtemps et y arriver. Après, les réservations aussi, on voit quand même que les prix de l'immobilier ont un impact. Les taux d'intérêt élevés sont plutôt défavorables pour ce marché. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même quelques incertitudes. Voilà, même si encore une fois les résultats sont plutôt de bonne facture.
Ouais, je sens pas emballé du tout, effectivement. 24,40 €, et puis Alexis non plus. J'ai même pas pris le temps de regarder Kaufmann, c'est même pas la peine, quoi. Bon, en tout cas, le titre a gagné 0,8% en clôture. On vous rappelle la clôture de ce CAC 40 à plus 0,9, 8326 points. Alors, c'est quoi votre pépite, Alexis, du coup, là, indépendamment de l'actu du jour?
Alors voilà, justement, elle est complètement indépendante de l'actu du jour. C'est pour ça que c'est ma pépite. L'Automatica, une société italienne, le leader italien de tout ce qui est opérateur de jeux, loterie, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est une société qui est faiblement valorisée. Donc ça, c'est quand même un élément positif, puisqu'on a un potentiel de revalorisation qui est non négligeable. La deuxième chose, c'est que c'est une société qui nous met complètement à l'abri de toutes les déclarations qu'on peut avoir du président Trump. Il n'y a pas de problématique tarif, il n'y a pas de problématique liée à l'Iran. C'est 100% domestique. L'intégralité ou la quasi-intégralité du business est réalisée en Italie, donc on n'a pas de multi-zone. C'est une société qui est extrêmement bien gérée, et c'est une société qui affiche une croissance, on va dire, entre le milieu à un chiffre, c'est comme ça qu'on dit, donc une croissance de mid-single digit. C'est une croissance récurrente, régulière, une belle rentabilité, une valorisation mesurée. Le seul, à mon avis, élément qui retient un petit peu un re-rating, un relèvement de valorisation plus massif en ce moment, c'est tous les sites de paris prédictifs. Alors, le plus connu d'entre eux étant Polymarket, qui pèse un petit peu sur le sentiment des opérateurs de jeux. Cela dit, je pense que d'ici à ce que l'Europe autorise de façon, on va dire, massive, les joueurs européens et les joueurs italiens et les joueurs français à utiliser Polymarket, je pense qu'on a quand même de quoi, on a un petit peu de temps, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on va continuer quand même de protéger le consommateur, de protéger le joueur. Donc j'ai du mal à penser que Polymarket devienne un acteur majeur en Italie ou dans un autre pays européen.
L'Automatica,
voilà. Exactement.
Éligible au PEA.
Éligible au PEA.
Pareil, pouvez-vous lâcher librement une pépite, valeur dans laquelle vous croyez, quelle que soit l'actu et la tendance de marché.
Alors, on parlait des hyperscalers et des centaines de milliards investis dans l'IA. Et ben moi, je me rappelle de la fable de La Fontaine entre le bœuf et la grenouille. Donc, je vais vous parler d'Infotel, qui est une société qui fait près de 300 millions de capitalisation boursière, qui est une société de services informatiques et un éditeur de logiciels qui vise 500 millions de chiffre d'affaires à horizon 2030, et c'est une très très belle société qui est très implantée en France, donc 90% de l'activité, donc pour le coup le cocorico, avec des clients tier 1, notamment dans les services financiers comme BNP, Banque de France, BPCE, et donc c'est une très belle société qui a toujours cru 2 à 3 points plus vite que le marché. Et donc cette année, les perspectives, malgré l'environnement économique, restent plutôt solides, avec 5% de croissance. On a une très bonne rentabilité de par l'activité logicielle qui est distribuée en fait par IBM, donc le géant américain, donc sur lequel touche des royalties. Et en termes de sécurité, il faut savoir quand même que la trésorerie nette de la société représente quasiment 40% de la capitalisation boursière. Donc pour le coup, c'est une très très belle valeur avec un bon rendement. Et pour finir, la valorisation est très faible. On est à 5 fois le résultat d'exploitation.
Infotel, donc. Il y a match. Romain est avec nous, l'arbitre. Voilà, il y a deux pépites proposées là, Infotel et l'Automatica. Laquelle pour vous a le plus de potentiel, graphiquement?
Bien, c'est difficile hein, comme arbitrage, mais Infotel probablement. Elle est dans un trading range effectivement depuis maintenant plusieurs mois, hein, depuis le mois de mars 2025, donc plus d'un an, bloquée entre 32,95 et 41,60. Mais depuis le mois de mai, elle accumule au-delà de la médiane de ce trading range, au-delà de 38, donc on peut envisager une sortie par le haut. L'Automatica, c'est pas mal non plus, mais le titre a manifestement un gros vendeur à 25,42. Systématiquement, quand on regarde regarde depuis le mois de mars dernier, le titre n'arrive pas à clôturer le mois au-dessus de ce niveau-là. Donc, il faut vraiment déborder ce niveau en clôture mensuelle pour envisager une poursuite à la hausse pour l'automatique.
Ben voilà. Merci beaucoup pour vos pépites, messieurs. Mais il était nuancé quand même, hein, Romain. Il disait pas, il y a un gagnant, il y a un perdant. Il disait, c'est compliqué de faire ce match, mais pour, voilà, il a joué le jeu. Merci donc. L'Automatica, comment, Mathias?
Son côté suisse.
Ouais, exactement. Et merci beaucoup à Mathias Desmarais, donc Odo BHF, et Alexis Albert, DNCA. Salut à Romain Daubry, depuis Bourse Direct. Et Antoine, vous le retrouverez, Antoine, dans une poignée de secondes, fidèle au poste, pour débriefer la séance aux côtés de Stéphanie Collot dans 18-19. Le CAC ce soir gagne, oui, 0,9% supplémentaire. Après, enfin, 0,9% après la baisse d'hier de 2%. On récupère qu'une petite partie des gains. Bonne nouvelle, détente obligataire générale aujourd'hui en Europe. Le 10 ans français recule avec le 10 ans allemand, le 10 ans américain aussi recule. 10 ans français n'est plus qu'à 3,75. Plus qu'à, entre guillemets, bien sûr, on reste toujours dans l'orbite des 4%.